j'étais prête, mais quand on a commencé l'entrevue avec « Parlez-moi de votre mère », c'est comme « OK ». Donc, on était dans l'enfance, on était vraiment dans la profondeur de ce qui motive, c'est l'humain derrière tout ça. Parce que pour moi, j'avais pas vécu un processus d'entrevue qui était si personnel que ça.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 188e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Et en plus de Hypercroissance, sachez que l'équipe de J7 Media qui est derrière ce podcast produit également deux autres balados. Social Selling, un podcast 100% orienté publicité Facebook. Et Commerce Elite, un podcast 100% orienté commerce électronique. Les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode si vous désirez jeter un petit coup d'œil. Également, si vous cherchez un partenaire de croissance pour vos campagnes numériques afin de terminer l'année en force, rendez-vous au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je répète, J, le chiffre 7, media au singulier.com/HYPERCROISSAN. NCE, afin d'obtenir gratuitement une analyse de vos campagnes actuelles ainsi qu'un plan de match personnalisé pour les mois à venir. Vous pouvez également venir discuter directement avec moi sur LinkedIn si c'est plus facile. La dynamique entre un dirigeant d'entreprise et son comité de direction va très souvent s'opérer de manière hebdomadaire ou encore mensuelle dans une entreprise privée. Maintenant, qu'en est-il quand on a des comptes à rendre à des investisseurs externes ou même, je pousse la réflexion un peu plus loin, quand les propriétaires de votre entreprise sont une organisation publique générant plus de 5 milliards à l'année? Cette semaine sur le podcast, j'ai la chance de m'entretenir avec Fanny Truchon, présidente de l'entreprise Créaform. Au moment où on se parle, Créaform possède une équipe de plus de 750 collaborateurs et l'organisation fête même cette année son 20e anniversaire. Madame Truchon, qui préside l'entreprise depuis 2018, nous explique d'ailleurs dans l'entretien son entrée chez Créaform en 2013 qui s'est faite de manière assez atypique. On discute aussi du processus de sélection pour devenir présidente qui est totalement fascinant, spécifiquement quand on le fait avec une entreprise cotée à la bourse. Sans plus attendre, ma discussion avec Fanny Truchon. Fanny Truchon, vous êtes présidente de l'entreprise Créaform qui fait maintenant partie de la grande famille de Ametech depuis 2013 maintenant. Créaform, qui compte plus de 750 employés dans ses rangs, se spécialise dans les scanners 3D et fête en 2022 son 20e anniversaire. Une histoire assez phénoménale qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Fanny Truchon, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance.
Merci. À vous de m'accueillir. C'est vraiment le fun de pouvoir partager, en effet, la belle histoire de Créaform, parce que c'est une belle entreprise avec une belle histoire puis beaucoup de réussite, puis je m'en compte très chanceuse d'en faire part.
Et parlons-en un petit peu peut-être de cette entreprise, et avant de rentrer peut-être dans l'évolution de ce qui s'est déroulé au cours des 20 dernières années, est-ce possible pour vous peut-être de nous expliquer spécifiquement ce que fait l'entreprise?
Oui, certainement. Créaform, en fait, c'est trois divisions, deux divisions principales. Une qui est de loin la plus grosse et celle qui génère beaucoup la croissance, c'est notre division de technologie. Donc, nous, on fait des technologies qui font de l'acquisition de formes 3D dans le but de faire de l'inspection ou de la mesure de déformation de pièces. Concrètement, ce que ça veut dire, on fait de la photographie 3D très, très précise dans un contexte industriel. Donc, on recrée des formes virtuelles avec des objets concrets. Et la deuxième division qu'on a, qui est bien connue, surtout au Québec, c'est notre division Créaform Ingénierie, qui fait de l'ingénierie spécialisée dans le développement de produits, la simulation numérique et tous les autres domaines qui se rattachent vraiment au développement de produits.
Mmh. Et ça, c'est pour Créaform. Mais avant, on va parler un petit peu de l'histoire de Fanny Truchon, parce que j'ai pu comprendre que vous avez étudié à la Polytechnique de Montréal. Par la suite, vous avez travaillé chez Procter & Gamble. Plus tard, vous avez été directrice des opérations manufacturières chez Louis Garneau Sport. Est-ce que ça serait possible peut-être de nous ramener un petit peu à ces différentes expériences et nous dire, au final, comment elles ont aidé à vous préparer pour le défi qui vous attendait chez Créaform?
Bien, certainement. Je dois dire que j'ai été très choyée avec des belles opportunités dans ma carrière qui m'ont amenée à différents endroits puis avec différents types de défis. Donc, ingénieure de formation, j'ai quitté Montréal pour aller me joindre à l'organisation Procter & Gamble dans une grande usine manufacturière qui est à Belleville, en Ontario, une toute petite ville. J'étais allée là pour, je croyais à ce moment-là, une couple d'années. J'y suis restée presque 14 ans. Et quelle belle expérience. C'est une belle école manufacturière, Procter & Gamble, grand manufacturier, beaucoup de rigueur dans leur système d'opération. Grande entreprise américaine avec un système de gestion bien développé. J'ai eu des apprentissages, des mentors, des opportunités de toutes sortes. Là-bas, j'ai fait du travail du côté technique, gestion de projet, qualité, gestion des opérations, gestion des achats. Donc, j'ai touché vraiment à toutes les parties. Ça a été pour moi vraiment une fondation pour développer toute ma base de sciences manufacturières, de sciences techniques, mais aussi toute la base de gestion et de leadership. C'est une entreprise qui est très, très axée sur le leadership humain, la présence de leader, le leader dans l'action. Après plusieurs années là-bas, j'ai fait le choix de revenir dans ma ville natale. Après quelques années en consultation, où est-ce que j'ai rencontré pour la première fois Créaform, qui m'avait beaucoup impressionné à ce moment-là. Je me suis joint au groupe Louis Arnault. Belle entreprise, beaux produits, beaucoup de défis. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir là-bas. Complètement différente, une organisation à propriétaire unique, avec un système de gestion très différent dans un domaine de sport, avec du linge. Vraiment beaucoup de variables qui étaient très, très différentes dans la gestion. Fait que ça m'a permis aussi de confronter un peu comment on adapte certains des principes de gestion, puis de gestion opérationnelle, comment on adapte ça dans des contextes très, très différents. Puis pour moi, ça a été une belle expérience. Et puis j'ai appris aussi dans cette période-là, à tomber vraiment en amour avec nos entreprises québécoises, tous ces gens qui ont mis la main à la pâte pour débuter puis faire progresser des entreprises à travers le Québec. C'est d'ailleurs quelque chose qui me passionne énormément aujourd'hui. Et après quelques années, suite au contact que j'avais fait avec Créaform, ben je me suis fait approcher par le président, le Martin, qui était président à ce moment-là de Créaform, un des fondateurs, pour venir me joindre à l'équipe et venir les aider dans le processus qui avait commencé à amorcer de potentiellement vendre l'entreprise. Donc, c'est dans ce contexte-là, moi, que je me suis joint à Créaform au début 2013.
Et c'est pas un peu étrange tout ça, d'ailleurs, d'arriver dans une entreprise que vous savez déjà est en train de se faire acquérir? Ça fait pas peur de se dire, bon, est-ce que mon rôle va être aboli? Est-ce que je vais rester une partie importante si acquisition se déroule par la suite?
Oui, c'était certainement un pensée du bien. J'étais assez claire qu'il y avait des scénarios d'acquisition qui auraient pu se terminer par, en effet, mon rôle qui était aboli ou le contexte qui ne se prêtait plus ou peu importe. Je suis venue en toute connaissance de cause. Il y a eu une transparence de part et d'autre. Mais pour moi, le défi était super excitant. Moi, je suis une personne de défi. J'aime pas les petits problèmes, j'aime les gros problèmes. J'ai décidé de sauter à pieds joints là-dedans, puis de dire, on va voir où est-ce que tout ça va nous mener. Puis finalement, j'aurais jamais pensé ça à ce moment-là. Presque 10 ans plus tard, ben, je me ramasse à la présidence de CREAP, puis presque 5 ans maintenant. Donc, l'aventure était certainement le bon choix pour moi.
Ah, c'est fantastique. Puis d'ailleurs, on va en discuter un petit peu plus tard sur cette gestion, parce que vous êtes effectivement président de Créaform au moment où on se parle. 750 employés, comme je l'ai dit en introduction, c'est assez fabuleux. Mais j'aimerais revenir un peu au moment de cette introduction / acquisition, parce qu'au final, c'est Ametech qui a mis la main sur l'entreprise Créaform en 2013. Pour situer un petit peu l'audience aujourd'hui, Ametech, c'est 20 000 professionnels dans le monde, un chiffre d'affaires annuel de 5,5 milliards de dollars. Donc, c'est littéralement un géant qui vient s'intégrer à tout ça. Comment ça s'est déroulé? Parce que, bon, vous entrez, on le dit au même moment, Ametech fait l'acquisition. Je serais curieux de vous entendre sur les mois qui ont suivi cet achat d'entreprise.
Bien, il faut d'ores et d'abord dire que Ametech a quand même un modèle de gestion particulier. Donc, ce n'est pas un consortium financier comme tel. Par contre, ils ont vraiment des unités d'affaires qui sont autonomes. Et pour nous, c'était vraiment, ça a fait partie dans la décision d'aller de l'avant avec Amtech comme acquéreur. Ça a vraiment fait partie de la décision parce qu'Amtech croit vraiment, ils achètent des entreprises qui ont une fondation solide au niveau de la gestion, puis au niveau évidemment de leurs produits qu'ils ont. Et avec l'intérêt de laisser la gestion rester très autonome. Fait que malgré qu'on appartient à ce grand groupe-là, comme moi, j'ai d'autres unités d'affaires qui gèrent leur unité d'affaires de façon très autonome. Donc, on a la pleine gestion de notre unité d'affaires. Par contre, on a un actionnaire qui a énormément de fonds, énormément de capacités d'investissement. Et on a aussi une grande profondeur financière chez Amtech, des très bons systèmes de financement. Donc, pour nous, les premiers mois au départ, ça a été la toute première chose, continuer à faire exactement ce qu'on faisait. Donc, ça, c'était très rassurant. On n'a pas vécu on change tout demain matin, on change de système de gestion informatique. Ça s'est pas passé de même du tout. Par contre, rapidement, on a eu à transitionner la façon qu'on les matrices qu'on rapportait financièrement, quelles étaient les attentes. Donc, on a eu des grands alignements à prendre au niveau financier, puis la façon qu'on mesurait, qu'on prévisionnait notre entreprise. Et ça nous a apporté beaucoup de profondeur, beaucoup de valeur. Une entreprise qui a, nous autres, à ce moment-là, on avait à peu près 15 ans d'existence. C'est encore petit, une entreprise de 15 ans d'existence. Donc, à avoir la capacité de travailler avec un grand groupe comme ça nous a obligés de s'améliorer très, très rapidement. Fait que pour nous, je dirais que ça a été extrêmement bénéfique pour continuer à approfondir nos systèmes de gestion, mais aussi accélérer notre croissance parce que, si je suis transparente, Amtech, ils nous ont jamais dit non. On a fait un paquet d'investissements. Ils nous ont supportés avec beaucoup d'investissements. Mais oui, leurs attentes sont très élevées. C'est une compagnie en bourse américaine avec des attentes de résultats de prévisionnels très élevés, très lissés dans le temps aussi à travers les mois et les je vais dire les quarts, je sais que c'est anglophone.
Les trimestres.
Les trimestres, merci beaucoup. Mmh.
Puis bon, je suis curieux au final, donc je comprends bien, on est capable de travailler main dans la main. On peut avoir également le moyen de nos ambitions, hein, c'est-à-dire que si l'entreprise Amtech nous dit pas non et est prêt à investir un petit peu dans cette croissance-là, ben habituellement, ça fait le bonheur de tout le monde. Maintenant, au niveau modus operandi, comment qu'on travaille ici conjointement? Est-ce que c'est des rencontres qui se font de manière fréquente? Est-ce que c'est uniquement peut-être un état des résultats au trimestre, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt? Comment tout ça se déroule même aujourd'hui encore?
Bien, il est certain que l'état des résultats se fait de façon continue dans le temps. On fait des états plus approfondis, évidemment, en fin de mois puis en fin de trimestre. Puis je dirais, au niveau financier, ben tant qu'on reste à l'intérieur de nos paramètres puis de nos prévisionnels, les interactions sont quand même peu. À part, évidemment, ben nos présentations annuel de notre plan stratégique d'affaires, qu'est-ce qu'on va vouloir faire, où est-ce qu'on va vouloir investir, pourquoi. Nos revues d'opérations qu'on fait une fois par année, où est-ce que là on va dans le détail, non seulement des résultats financiers, mais quels ont été les différents projets et initiatives qu'on avait derrière ça pour arriver à nos résultats financiers, comment nos taux de main-d'œuvre, les taux de roulement. Donc, on regarde beaucoup de matrices comme ça. Et évidemment, la fameuse revue de budget qui est probablement la plus intense de l'année où est-ce qu'on regarde un peu les investissements qu'on veut faire l'année d'après basé sur nos prévisions de vente. Bon, on va dans beaucoup, beaucoup de détails. En gros, ça ressemble à ça. En plus, évidemment, ben tous les projets spéciaux, est-ce qu'on cherche des investissements ou des choses différentes, là, où est-ce qu'on a présenté un peu plus dans le détail. Donc, tu sais, c'est vraiment une relation qui est quasi une relation d'actionnaire ou qu'on aurait peut-être avec un board d'actionnaires aussi pour être capable de bien présenter les plans. Mais dans la gestion quotidienne, ben cette gestion-là, elle nous appartient complètement.
On est indépendant. Intéressant. Bon, on a parlé de Amtech qui aide la croissance de Créaforme. Parlons un petit peu maintenant de la croissance de Fanny Truchon. Donc, vous arrivez dans l'organisation en 2013. Pendant 5 ans, vous restez au niveau des opérations. opérations, vice-présidente au niveau opérationnel. Et là, par la suite, en 2018, vous prenez la présidence de l'organisation. Est-ce que c'était planifié dans le temps? Est-ce que ça avait été mentionné peut-être après une ou deux années à l'intérieur de l'organisation qu'on pense à terme vous nommer présidente ou finalement vous l'avez appris peut-être quelques mois seulement avant l'annonce?
Ben, je dois dire, mon ancien président avait bien, quand même bien préparé le terrain. Honnêtement, les deux, trois premières années, ça m'aurait jamais passé par la tête. Surtout dans le contexte de Créapon, moi, est-ce que c'était un milieu puis une technologie que je connaissais pas, beaucoup, toute la métrologie. Mais je me suis rapidement impliquée de plus en plus dans différentes portions de l'organisation à travers des projets, à travers différentes choses. Puis rapidement, j'ai vraiment démontré mon intérêt puis ma capacité d'aller bien au-delà de ce qui est les fonctions standards au niveau manufacturier. Et Martin m'a laissé beaucoup de responsabilités, beaucoup de place. Martin, c'est un gestionnaire qui était très ouvert à partager son leadership. Et c'est lui qui a commencé à aborder avec moi en disant « Regarde, Fanny, je ne sais pas combien de temps encore je vais rester, mais je ne serai pas ici encore 10 ans. » Ça, c'était toujours sa phrase. « Je ne serai pas ici encore 10 ans. » Et moi, je te vois comme étant potentiellement un des candidats pour prendre la relève. Et on a parlé où est-ce que je devrais peut-être passer un peu plus de temps pour mieux connaître certaines parties de la business. Puis quand Martin a annoncé qu'il souhaitait son départ, ben je faisais partie de ses recommandations. Donc à travers un processus assez intense, je dois dire, d'évaluation chez Amtech. Oui, de rencontre de psychologues industriels pendant 7 heures de temps. Avec la première question, parlez-moi de votre mère. J'avais fait beaucoup de processus d'entrevue, mais très intéressant comme processus en passant, bon, des tests psychométriques, des tests approfondis, beaucoup de choses. C'est quelque chose qu'ils prennent beaucoup au sérieux. Ils n'ont pas le choix parce que comme ils laissent les unités d'affaires être très autonomes, ben leur point de contact, dans le fond, devient la personne en charge de l'unité d'affaires, puis le contrôleur financier. Fait que ces deux personnes-là, c'est leur point de contact dans les unités d'affaires. Pas le seul, mais une grosse partie de leur point de contact. Donc, après ça, ben Amtech m'ont offert le poste. Je sais qu'ils ont fait aussi des validations un peu à l'interne avec l'exécutif en place pour voir quel support il y aurait pour ma nomination potentielle, etc. Et comme on est une équipe très, très proche, je dois dire, et la plupart de ces joueurs-là sont encore en place, on s'en est parlé aussi à l'interne parce que moi, j'étais aussi dans la position de dire si j'ai pas le support puis l'aval de mon exécutif en place, c'était tous mes collègues, j'allais devenir, bon, je vais dire leur patronne, on n'est pas très hiérarchique, on travaille beaucoup en collaboration, mais quand même, quand on regardait l'organigramme, c'est ce que ça disait. Donc, on a eu beaucoup de discussions pour être certain que, un, les gens me supporteraient et voyaient ça d'un bon œil, et deux, que j'aurais aussi les bons joueurs en place qui resteraient pour aider à compenser des parties de la business où est-ce que j'avais peut-être moins de profondeur.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique en 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance depuis le début de l'année? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, le chiffre 7, média au singulier.com /HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. J'aimerais revenir, Madame Trichot, parce que je trouve ça tellement fascinant ce que vous nous avez dit un petit peu sur l'entretien d'embauche. Bon, on le sait, Amtech, entreprise publique, on le dit, là, des milliards de chiffres d'affaires, c'est très sophistiqué, c'est des organisations qui ont été capables de prouver qu'elles peuvent passer à travers le temps. Avez-vous des anecdotes, là, un petit peu, que vous pourriez nous ramener à ce moment, ces entretiens, le temps, combien de personnes différentes vous avez rencontrées?
Oui, c'est intéressant comme question. Hein. Puis le processus varie dépendamment des postes. Là, c'est certain que j'étais déjà dans l'organisation, fait que j'ai quand même sauté une grande partie d'étapes. Mais bon, entre autres, j'avais eu une entrevue avec notre président, qui est le président du groupe qui est assis sur le board d'Amtech. Puis écoute, un drill de questions financières, là, c'était vraiment. Je m'attendais pas à ce que ça soit, je dirais, technique comme ça. C'était très...
Ils vous testaient, là.
Oui, c'était pas... on n'était pas dans l'entrevue comportementale. On n'était pas dans cette nature-là. Là. Fait que c'était dont des questions qui étaient claires que j'aurais pas nécessairement les réponses, mais c'est aussi à propos de comment tu abordes la question. Fait que c'était intéressant, mais c'est le genre d'entrevue que tu sors, tu fais OK. Ensuite de ça, ben une série de tests. Dans les tests, il y avait des parties qui étaient psychométriques plus standards, mais il y avait beaucoup de tests, des tests de logique, des tests des paniers de leadership très contraints dans le temps. Donc, on y passe quelques heures. Puis ensuite de ça, il y avait la rencontre. Il y a eu des entrevues avec d'autres personnes dans l'entreprise, là, dont le CEO d'Amtech. Puis, évidemment, il y a cette fameuse entrevue-là avec le psychologue industriel qui, lui, a quand même étudié tous les tests que tu as fait, les feedbacks d'entrevue, étudié ton profil, ton CV, etc. Puis c'est vraiment des questions. Moi, j'étais prête, mais quand on a commencé l'entrevue avec « Parlez-moi de votre mère », c'était comme « OK ». Donc, on était dans l'enfance. On était vraiment dans la profondeur de ce qui motive l'humain derrière tout ça. Parce que pour moi, j'avais pas vécu un processus d'entrevue qui était si personnel que ça. Mais ça a été hyper intéressant comme journée. Puis le débrief de ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, quand on a le poste, ben après ça, on a, voici la lecture de différentes choses. Probablement 80% de ça, on est, on se connaît, là, j'avais plus 17 ans, là. Mais il y avait quand même des choses qui étaient, quel beau constat que j'avais peut-être pas fait si clairement que ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Un peu intense. Mais moi, j'avais vraiment pris la position de dire, regarde, moi, je suis qui je suis. Je vais rester qui je suis. Je ne suis pas là pour m'inventer un personnage. Si ce qu'ils voient ne répond pas à ce que Amtech souhaite avoir, advienne que pour eux, je ne suis pas malheureuse dans ma job du tout. Et je n'ai pas besoin du titre de présidente à côté de mon nom. Moi, ce que je veux, c'est mettre mes talents au service de... au service de défis qui me passionnent. Mais de façon très, très concrète, je suis vraiment contente d'être dans le poste où je suis.
ça doit être des responsabilités assez impressionnantes. Et parlons un petit peu peut-être de cette transition. Donc, il y a les entretiens. Finalement, les entretiens, vous les avez bien passés haut la main. Vous êtes présidente. Comment par la suite la transition se fait? Est-ce que Martin reste à vos côtés pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années? Est-ce que finalement, ça se fait très rapidement qu'il vous donne les pleins pouvoirs de l'entreprise?
Ça s'est fait très, très rapidement parce que, j'étais dans l'entreprise. C'est sûr que ça a enlevé toute une partie de transition. On a aussi gardé l'exécutif en place et tout resté. Donc, la transition s'est faite rapide. Tant au goût de Martin qu'au mien, on a probablement eu à peu près, je dirais, 3-4 semaines, pas plus que ça, là, j'ai pas de mémoire, là, mais tu sais, ça a été très rapide. Par contre, Martin, on avait gardé quand même un peu de on avait fait un mécanisme pour être capable, pour que je puisse avoir accès à Martin. Donc, moi, je me servais quand même de Martin pour valider certaines choses avec lui, etc. Puis, il a toujours été très généreux de son temps et de ses conseils. Donc, ça s'est fait comme ça. Pour le reste, évidemment, il y a beaucoup de gens dans l'exécutif qui ont aussi remonté leur niveau de contribution à travers cette, à travers cette transition-là. Puis pour moi, c'était quelque chose que je souhaitais. C'est sûr que quand on passe de collègue à, encore une fois, je dis patronne, puis je le dis toujours avec mes... évidemment, je souhaitais qu'il y ait une gestion beaucoup plus collaborative des décisions prises en discussion, en consensus, qui parfois sont plus longues. C'est plus long de travailler en consensus, travailler en équipe que de prendre des décisions seules. Oui, souvent, il faut que ce soit moi qui tranche, qui prenne des décisions, on n'a pas le temps de tout discuter. Mais dans tout ce qui trait à l'essentiel de nos choix d'entreprise, notre culture, ce qui affecte nos employés, on essaye vraiment de faire un travail d'équipe à l'exécutif ou de sous-équipe, dépendamment des termes.
Et bon, en 2018, quand vous reprenez l'organisation, vous êtes 500 collaborateurs au moment de l'enregistrement de ce podcast. Vous êtes plus de 750, c'est 250 personnes, 250 collègues qui ont été ajoutés en 4 ans. Chapeau, félicitations. On l'attribue à quoi cette belle croissance-là?
Notre croissance s'est vraiment bien déroulée. Tout d'abord, on a des technologies qui sont très différenciées dans le marché et on fait énormément d'innovation de produits, tant dans nos produits technologiques que nos produits logiciels. Donc, on a des équipes de chefs de produits, de R&D, avec un processus d'innovation qui nous permet de lancer 2, 3, 4 produits par année, certaines années. Des fois, c'est des lancements plus majeurs. On est entré dans des nouveaux secteurs d'affaires comme le contrôle de qualité automatisé avec des systèmes sur des plateformes robotiques. On a vraiment fait avancer toutes nos plateformes logicielles. Donc, tout un volet d'innovation qui était également soutenu par une continuité au niveau de notre déploiement à l'international. Donc, rapidement, Créaform s'est positionné à l'international. Aujourd'hui, du côté technologique, 95 % de nos ventes sont à l'extérieur du Québec. Donc, on vend beaucoup au Québec relativement à la grosseur de notre marché, mais on est extrêmement présent à l'international et bien segmenté entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique. L'Amérique reste quand même un marché où est-ce qu'on est très fort, mais l'Amérique représente moins de 45 % de nos ventes. Donc, ces deux travails-là de front ont permis vraiment à continuer à améliorer l'offre qu'on présentait à nos clients et avoir des gens, que ce soit à travers nos gens qui sont directement dans notre équipe ou à travers des distributeurs qui sont des partenaires d'affaires très près de nous, avoir plus de gens à travers le monde pour présenter ces solutions-là à nos clients. Et puis, évidemment, tout ça, hein, ça crée des besoins au niveau opérationnel, manufacturier, toutes les autres fonctions qui doivent être capables de suivre cette croissance-là.
Et est-ce qu'avant votre arrivée, ou du moins avant votre arrivée comme présidente, il y avait des équipes un petit peu partout dans le monde? Est-ce que ça a été peut-être ça, un peu une accélération à l'international depuis que vous avez pris les rênes?
Il y avait déjà des équipes. Je dois dire que ça avait été bien commencé, les équipes, le déploiement à l'international. Moi, bien que je suis une fille d'opération, j'essaie d'être toujours focalisée sur pousser l'entreprise vers le haut. Donc, on essaie de tirer vers le haut en accélérant les ventes et on essaie de s'assurer que l'organisation est capable de suivre. C'est la meilleure façon d'être capable d'optimiser nos coûts. Quand on est capable d'avoir de la croissance rapide, le reste suit très, très bien. Puis pour moi, surtout pour quelqu'un qui avait un background manufacturier, ça a été quelque chose dans lequel j'ai passé énormément de temps à bien m'impliquer avec les équipes commerciales, les équipes marketing, bien comprendre ce qu'on appelle le go-to-market, comment on est capable de l'accélérer, l'améliorer. Donc, une accélération de quelque chose, honnêtement, qui était déjà en place. Et moi, une des choses que j'ai entrepris avec l'équipe, c'était vraiment la mise en place de systèmes d'entreprise qui allaient nous permettre de continuer et de supporter une croissance accélérée. On était encore principalement sur tous les mêmes systèmes qu'on avait depuis le début de l'entreprise, tant au niveau de notre plateforme de gestion clientèle, notre CRM, que notre plateforme financière, notre ERP, nos plateformes de gestion client. Donc, on a entrepris une transformation extrêmement rapide pour être capable d'avoir des systèmes d'entreprise à niveau. mais aussi d'attaquer ces transformations-là de système d'entreprise dans un objectif de s'améliorer dans nos indicateurs critiques. Donc, si on touche sur un système de gestion de la clientèle, c'est dans le but d'améliorer nos ventes, améliorer notre expérience client, s'assurer que notre visibilité est meilleure, etc. Pas seulement pour essayer de faire de l'optimisation de processus à l'interne. Donc, ça a été aussi un gros chantier qu'on a entrepris, dans lequel on est maintenant vraiment dans l'optimisation de tout ça, mais les gros morceaux ont été vraiment mis en place dans les dernières années.
Je serais curieux, Mme Truchon, également, de vous entendre sur vos plus beaux coups, les coups que vous avez été le plus fier depuis que vous êtes présidente de Créaform, les choses qui, avec du recul, vous rendent très heureuse d'avoir fait ces décisions à ce moment-là, et également peut-être les défis que vous voyez pour le futur de l'entreprise.
Deux choses extrêmement intéressantes. Donc, les plus beaux coups pour moi, peut-être ça va vous paraître banal parce que, bon, je pourrais parler d'un nouveau bâtiment, je pourrais parler de choses qui sont super concrètes. Pour moi, un des plus beaux coups qui est un paquet de choses mis ensemble, c'est vraiment la transformation qu'on a faite au niveau de la gestion de carrière de nos employés. Comme jeune entreprise, on a eu pendant des années le réflexe d'aller chercher des talents à l'externe. J'ai été un super bel exemple de ça. On manque de profondeur en opération, on va chercher quelqu'un. J'en ai bénéficié. Mais depuis plusieurs années, on travaille très, très fort pour être capable de donner nos promotions à des gens à l'interne. Puis ça force un style de gestion qui est différent. Parce que si tu développes pas le talent, quand ça va être le temps d'amener des gens dans des positions clés, ben ils seront pas prêts pour aller dans ces positions clés. Puis quand on va les évaluer, on va dire « Oh, ils sont pas prêts », puis on va probablement avoir raison. Donc, une grosse transformation, moi, dans le modèle de gestion qu'on fait à l'interne, puis entendez-moi bien, c'est loin d'être parfait, puis il y a encore beaucoup de travail. Mais on travaille très, très fort pour être capable d'amener des bons jeunes talents, s'assurer qu'on leur donne beaucoup d'espace pour innover, pour rayonner, qu'on les accompagne dans leur développement, puis qu'on est capable par la suite d'en faire nos gestionnaires premier niveau, deuxième niveau, nos directeurs, nos gestionnaires de projet. Puis on voit énormément de mouvements à l'interne. Ça, pour moi, c'est très excitant. On a des gens qui ont eu des rôles à l'international. On a plein de beaux succès comme ça. Puis tu sais, je vois que ça s'accélère encore, puis on est très, très bien positionnés pour le futur, pour avoir des belles relèves à l'interne quand les vieux comme moi vont un jour s'en aller faire d'autres choses ou moins de choses, je devrais dire.
Et là, vous avez 20 ans d'expérience avec Créaform. On voit un peu ce qui s'est déroulé dans le passé. Est-ce que le passé est garant du futur? Est-ce que vous avez une vision claire de ce qui vous attend pour les 5 prochaines années?
Le passé n'est certainement pas garant du futur, mais tous les éléments qu'on a mis en place qui sont bien imbriqués dans l'organisation sont certainement des gros facteurs pour aider le futur. On a quand même de plus en plus de compétition dans le marché par rapport à nos technologies qui sont peut-être moins différenciées techniquement qu'elles l'étaient il y a 10 ans parce qu'on était très, très, très tôt dans le marché. On est déployé à l'international, il reste moins de zones inexplorées. Mais on a une équipe qui travaille extrêmement fort pour bien positionner la valeur qu'on amène aux différents manufacturiers et industriels qu'on a, venir amener des nouvelles solutions à travers les logiciels. Et je vois vraiment, on regarde tout le bassin d'initiatives qu'on a dans notre portfolio, puis j'ai pas du tout d'inquiétude pour le futur. Je dis ça, puis en même temps, ben je m'en inquiète constamment en me disant c'est pas garanti, il faut qu'on travaille fort, quels sont les risques, où est-ce qu'on peut, quelles sont les opportunités. Donc, je n'en suis pas inquiète, mais je m'en inquiète constamment.
Ben, c'est le rôle de la présidente en même temps. Hein? C'est vous la capitaine du bateau. On doit s'assurer de bien comprendre ce qu'il y a à notre droite, ce qu'il y a à notre gauche pour s'assurer qu'on soit capable de suivre une ligne directrice, hein, qu'on a partagée un petit peu avec nos équipes. J'aimerais terminer, Madame Truchon, sur des questions peut-être un petit peu plus personnelles. J'adore savoir un petit peu ce que les invités du podcast Hypercroissance lisent. S'il y a peut-être des lectures d'affaires qui ont marqué votre imaginaire, vous avez eu des gros postes de gestion, vous en avez un encore au moment où on se parle. Est-ce qu'il y a certaines lectures peut-être qui vous ont marqué, qui vous ont aidé dans votre parcours?
Mais moi, je garde ça simple. Hein. Je suis une grande fan de Good to Great de Jim Collins. C'est un livre que je dois avoir lu au complet probablement 12 fois. En partie, je peux même pas le nommer. Je l'ai.
C'est une bible. Hein?
Je l'ai en je sais pas combien de versions papier, puis je l'ai en version audio. J'étais là audible, excusez. En version audio. Puis j'essaie de me ramener à des principes de base. J'aime beaucoup lire sur les différences culturelles aussi. Il y a beaucoup de livres qui ont été faits sur les différences culturelles en gérant une entreprise à l'international. On n'a jamais fini d'apprendre sur les différences culturelles. Certaines sont ultra visibles quand on travaille avec l'Asie, mais les comprendre, c'est pas si facile. Puis certaines qui sont pas très visibles quand on travaille avec les États-Unis, quand on travaille avec l'Europe, des fois, on a l'impression qu'on est beaucoup plus proche. Mais la réalité, c'est qu'il y a des grosses différences. Donc, je passe beaucoup de temps à lire un peu sur les différentes cultures en affaires. C'est des choses qui m'intéressent énormément. Donc, et à la base, je suis une fan de romans, moi. Fait que j'essaie de garder mon temps personnel pour lire des romans. C'est mon petit plaisir secret, je l'avoue. Donc, souvent, je tasse les lectures d'affaires que j'essaie de m'efforcer de faire et je lis des romans. Et je trouve que comme gestionnaire, c'est important des fois de sortir un peu du cadre trop sérieux. Et de se rappeler qu'à la fin de la journée, on gère des humains qui ont des familles, des problèmes, qui sont en feu certaines journées, fatigués d'autres. Et toutes les solutions qu'on va qu'on va développer avec eux, ben ça doit être des vraies solutions qu'on est capable de mettre en place, qui excitent les gens, parce que si ça n'excite pas les gens, ça va être soit pas exécuté ou pas très bien exécuté. Donc, j'essaie de me ramener beaucoup dans du concret et dans de l'humain dans ces réflexions-là.
Podcast, est-ce que vous en écoutez un peu?
J'écoute un peu de podcast. Je suis pas une grosse fan, c'est pas vrai. Je suis pas une grosse consommatrice de podcasts. J'en écoute quand on me les envoie. Donc, les gens qui m'envoient des podcasts, je les écoute certainement. Puis encore une fois, je me ramène comme je suis une fan de romans. Et j'écoute énormément de romans audio. Je me ramène à ça rapidement. C'est mon plaisir secret. Il n'est plus très secret, là.
Puis, si on termine un peu les routines, est-ce que vous avez des routines spécifiques avant, pendant et après le travail?
Oui, je suis une personne de routine, puis je peux mesurer mon niveau de stress aussitôt que je vois ma routine qui se met à se briser. Pour moi, c'est un indicateur certain. Moi, j'ai deux chiens, donc ils me forcent cette routine-là. Là. Les enfants sont partis, on est ailleurs. Donc, le matin, c'est faire mon café, aller marcher avec mes chiens en prenant mon café. Puis pour moi, c'est très important, cette période-là. Avant ça, je fais mes approbations, je lis mes choses pour l'Asie en essayant de leur répondre. Je fais ma marche. Si des appels à faire avec l'Asie, c'est là que ça se passe. Ils savent tout. Le matin, si j'ai des appels avec l'Asie, ça se fait en marchant. Ils me connaissent. Et pendant la journée, là, il va y avoir la folie de la journée. Pour moi, tous les soirs, quand je finis de travailler, c'est la même chose. Je me rassois, je regarde c'était quoi les urgences de la journée qui n'ont pas été traitées. Je les réécris à la main pour le lendemain matin, même s'ils sont toujours dans mes tâches, pour avoir prendre le temps de le déposer. Essayer en même temps de les sortir un petit peu de mon cerveau en sachant. Fait que moi, ce temps-là, où est-ce que je prends le temps de déposer les choses qui n'ont pas été réglées, les urgences que j'ai pour le lendemain, j'essaie de me donner un message de dire, regarde, c'est fait, là, c'est déposé. Donc, c'est ça. Puis là, vous allez deviner qu'est-ce qui se passe au retour à la maison. C'est la marche avec les chiens encore. Ou est-ce que des fois, oui, je finis des appels, mais souvent, il est trop tard. Ou ben j'écoute mes petits livres secrets. Fait que moi, c'est cette routine-là de début puis de fin de journée, là, c'est très, très important. J'essaie de garder du sport à travers tout ça. Je cours de façon très modeste avec mes chiens encore. Je cours quand je voyage aussi et je fais beaucoup de plein air à toutes les opportunités que j'ai. Donc, c'est ça. Ce n'est pas des routines très compliquées, mais moi, c'est ce qui démarque bien le début et la fin de la journée. J'aime bien ça m'y tenir.
Fascinant. Puis, Madame Truchon, vous êtes en période de croissance avec Créaforme. Si on veut en apprendre plus sur votre entreprise, peut-être qu'il y a des postes d'ouvert aussi. Quel est l'endroit le plus simple pour vous rejoindre et en savoir plus sur Créaforme?
Bien, évidemment, c'est notre site Internet. Vous allez nous trouver facilement en recherchant Créaforme. On optimise bien toutes nos recherches Internet. Donc, vous allez sur... si vous allez sur notre site Internet Créaforme 3D, vous allez nous trouver. On a une cinquantaine de postes ouverts. Donc, pour ça, il y a beaucoup d'opportunités chez Créaforme. On recherche des talents, des jeunes, des moins jeunes, à peu près dans toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, je vous invite à venir découvrir un peu on est qui, c'est quoi notre culture. Dans notre section carrière, on a beaucoup de détails. Et pour ceux qui pourraient être intéressés par nos technologies puis nos services, on a des choses pas mal intéressantes à offrir à nos entreprises. Donc, au plaisir de vous rencontrer puis de discuter avec vous.
Fantastique. Fanny Truchon, merci énormément d'avoir pris du temps aujourd'hui avec nous. Félicitations pour la belle croissance que Créaforme vit depuis plusieurs années maintenant, 20 ans. C'est votre 20e anniversaire. Félicitations. Une discussion assez fascinante. Donc, je vous en remercie. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux en faisant une capture d'écran et en me taguant directement sur LinkedIn. Également, je vous invite à m'ajouter sur ce fameux réseau social. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.